Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 33e épisode du podcast Interstice. Avec l'avènement des sites de réseaux sociaux, la question du droit à l'oubli est devenue très préoccupante. Pour en discuter, nous recevons Claude Castelluccia, directeur de recherche à l'INRIA Grenoble-Rhône-Alpes. Claude Castelluccia, bonjour.
Bonjour.
Qu'entend-on exactement par droit à l'oubli sur Internet ?
En fait, lorsqu'on parle de droit à l'oubli sur Internet, je pense qu'on devrait plutôt parler du droit au contrôle. Donc l'idée, c'est de pouvoir, en fait, à tout moment, lorsqu'on publie des données sur Internet, sur un réseau social de type Facebook, pouvoir, lorsqu'on souhaite, retirer ces données, les modifier ou les effacer.
Cette question soulève de nombreux problèmes juridiques parce que, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de cadre légal pour ce contrôle des données. Et du point de vue informatique, qu'est-ce que ça sous-entend ?
Alors c'est vrai que ça pose des gros problèmes à la fois d'un point de vue juridique, comme vous le dites, parce qu'il n'y a pas de cadre, et aussi parce que les données peuvent être sauvegardées à différents endroits, dans différents pays, et que même s'il y avait un cadre juridique, les lois seraient différentes, et ça serait de toute façon compliqué. D'un point de vue technique, c'est aussi très compliqué, parce que les données sur Internet sont numériques, donc rien n'empêche quelqu'un de faire des copies de données numériques et de les rediffuser par la suite. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour améliorer la situation.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le droit à l'oubli sur Internet ?
Je pense qu'il y a différentes pistes à étudier. Il y a bien sûr les aspects, juridiques, avoir des lois qui protègent un peu plus les gens. On peut effectivement aussi penser à des solutions techniques, c'est ce qu'on fait à l'INRIA. Mais il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect éducation et formation. Il faut vraiment qu'il y ait des actions de formation, d'éducation qui expliquent aux gens que lorsqu'on publie quelque chose sur Internet, les données seront là pour toujours et qu'on peut très difficilement les récupérer pour les effacer. Il faut expliquer aux jeunes que Facebook, il y a des dangers. On peut effectivement publier des photos aujourd'hui, mais qu'on peut le regretter dans quelques années.
Et pourquoi s'intéresser à cette problématique du droit à l'oubli en tant qu'informaticien ?
Alors déjà parce que c'est un problème qui est très difficile. Et c'est vraiment un défi de proposer des solutions qui pourraient résoudre ce problème. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment un problème réel et il y a vraiment une demande forte de la part de la société, des gens qui utilisent ces services pour pouvoir à tout moment contrôler leurs données et les effacer si besoin est.
Alors, quelles sont justement ces solutions qui pourraient être envisagées ?
Une des premières solutions, ça serait de pouvoir attribuer à chaque donnée une durée de vie, de telle façon à ce qu'au bout de cette durée de vie, les données s'effacent automatiquement ou au moins deviennent inaccessibles.
C'est une durée limite de validité en quelque sorte.
Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, on veut publier des données sur Facebook ou sur une page web, mais on voudrait que ces données soient accessibles uniquement pendant 24 heures et qu'au bout de 24 heures, les données s'effacent.
Donc l'internaute aurait le choix de dire « je veux que mes données soient conservées pendant 10 heures, 24 heures, etc. »
Exactement. Donc en fonction du type de données, il pourrait donc sélectionner des durées de validation qui pourraient changer d'une appli à une autre, d'un type de données à une autre.
Et concrètement, comment ça se mettrait en place ce système ?
Donc les solutions de données éphémères sur Internet, il y en a essentiellement trois qui ont été proposées récemment. La première proposition a été faite par une équipe de recherche de l'université de Washington aux États-Unis. Leur idée en fait était de crypter les données et de stocker la clé sur un réseau pair à pair. Et au bout d'un certain temps, cette clé va disparaître et du coup on ne pourra plus décrypter les données. Okay, donc ça se garantit en fait que les données disparaissent, on ne peut plus les déchiffrer.
Mais le réseau pair à pair, il est sécurisé ?
Alors justement, un des gros problèmes de cette approche, c'est qu'il y a d'autres travaux qui ont montré qu'on pouvait très facilement casser cette solution en corrompant le réseau pair à pair et en stockant les clés qui avaient été stockées. Donc du coup, il y a deux autres solutions qui ont été proposées, une par l'université de Saarland en Allemagne, et eux, leur idée est relativement simple, ils proposent de crypter les données. Et ils fournissent un service qui est un service payant sur lequel en fait les gens peuvent stocker les clés. Donc ils ont des serveurs, les gens les utilisent pour stocker, sauvegarder leurs clés. Et eux garantissent qu'au bout d'un certain temps, ils vont effacer les clés. Donc du coup, les données ne vont plus être accessibles. Alors bien sûr, les limites de cette approche, c'est qu'on doit faire confiance à cette société qui est une start-up. Et je ne vois pas pourquoi un utilisateur en France ou ailleurs ferait confiance à une start-up dans notre pays, quoi. La troisième approche, qui est notre approche, est en fait d'utiliser un système complètement distribué, qui est le DNS. Donc le DNS, c'est le système qui permet en fait de traduire un nom de domaine en adresse IP. Et donc on utilise les mécanismes de cache du DNS pour sauvegarder la clé de cryptage des données. Donc en utilisant le DNS, on garantit qu'on a un système qui est complètement robuste, parce que le DNS est robuste et donc c'est un service qui est fiable. Et on n'a pas besoin en fait de déployer de nouveaux services parce que le DNS existe déjà. Donc on a une solution qui peut être déployée très rapidement et sans gros investissement.
Donc finalement, c'est vous qui proposez la meilleure solution, quoi.
Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, mais un des objectifs pour nous, enfin une des contraintes, c'était d'éviter de déployer de nouveaux services parce que ce serait très difficile à mettre en œuvre, et aussi d'éviter d'avoir un système complètement centralisé comme la solution allemande qui repose en fait sur quelques serveurs auxquels on doit faire confiance.
Et y a-t-il d'autres solutions que les communications éphémères ?
Alors la deuxième solution, elle s'intitule OCN. Donc OCN, c'est pour Owner-Centric Networking. Et l'idée, en fait, ça serait de donner aux utilisateurs la possibilité de contrôler l'endroit où se trouvent les données. Aujourd'hui, lorsque vous envoyez un email à un destinataire, il y a effectivement un échange de fichiers. Donc il y a un fichier qui va partir de votre machine et qui va, par l'intermédiaire du réseau, aller vers la machine du destinataire. Du coup, l'émetteur n'a plus aucun contrôle de l'email. Le fichier est parti, il ne peut plus le récupérer pour le modifier ou pour l'effacer. Donc l'idée d'OCN, c'est de dire, au lieu d'envoyer le fichier, on a des serveurs. Donc l'email va être stocké sur un serveur et on va envoyer un pointeur vers ce serveur que l'émetteur contrôle.
Mais comment l'utilisateur peut-il contrôler un serveur ?
Le serveur, ça peut être soit une machine qu'il a chez lui, soit on peut imaginer que c'est un réseau pair à pair sur lequel il peut stocker des données. Mais l'idée, c'est qu'à tout moment, il peut en fait aller récupérer les données pour éventuellement les modifier. Donc pour revenir à l'exemple de l'email, on envoie un pointeur et le récepteur va devoir cliquer sur l'email pour aller se connecter sur le serveur et pour lire le contenu. Mais il n'aura pas une copie physique de l'email, sauf bien sûr s'il fait lui-même une copie. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire une copie numérique. Mais si on fait l'hypothèse que l'adversaire n'est pas malicieux, les données restent sur le serveur et du coup l'émetteur garde le contrôle et peut à tout moment effacer, modifier, etc.
Donc finalement, le droit à l'oubli sur Internet, c'est simplement redonner le droit à l'utilisateur de contrôler ses données.
Tout à fait. Le droit à l'oubli, c'est beaucoup plus large que le fait de simplement effacer des données. C'est vraiment le fait de pouvoir contrôler ces données, pouvoir à tout moment les modifier ou voir, comme je disais, les effacer. Mais le but, c'est effectivement de donner un peu plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données.
Techniquement, c'est impossible de faire disparaître ces données.
Alors oui, les données sont numériques, donc tout le monde peut faire une copie de données, les redistribuer. On n'a aucun moyen de savoir si quelqu'un a vraiment effacé des données qui nous appartiennent. Les solutions techniques ont une limite, il faut donc une approche juridique. Il faut un cadre juridique qui soit un peu plus précis sur ces aspects-là. Donc la seule chose qu'on peut faire au niveau technique, c'est avoir une architecture qui, par défaut, préserve la vie privée. Au lieu d'avoir un transfert de données, comme c'est le cas aujourd'hui avec les emails, mais avec beaucoup d'autres applications, on pourra avoir une architecture dans laquelle les données sont localisées à des endroits que l'utilisateur peut contrôler. Donc on peut avoir ce que les Américains appellent Architecture of Privacy, donc une architecture qui, par défaut, préserve la vie privée, mais à aucun moment on aura une garantie forte qu'effectivement quelqu'un n'ait pas copié les données.
Est-ce que ces architectures dont vous parlez sont difficiles à mettre en place ?
Alors non, pas vraiment, quoi. Il suffit d'avoir des machines et réécrire certaines applications. Donc par exemple, reconfigurer les applications email pour que, par défaut, au lieu d'envoyer le message au destinataire, on envoie le message vers un serveur local et on envoie en fait uniquement le pointeur au destinataire. Donc à l'INRIA, on est en train de travailler justement sur des applications de ce type-là qui permettraient à un utilisateur donc automatiquement leurs emails standards en email, ce qu'on appelle OCN, donc qui aurait cette propriété.
Donc on n'a pas forcément besoin de repenser complètement le réseau.
Non, on n'a pas besoin de modifier le réseau. On a juste besoin de rajouter des applications ou une couche middleware qui permettrait de faire la traduction entre les emails standards vers les emails OCN. Donc on commence par les emails, mais on peut imaginer de généraliser cette approche à tout type d'application. Par exemple Facebook, on pourrait imaginer que le contenu des utilisateurs soit stocké localement. Au lieu de stocker les données sur le serveur de Facebook, on les a localement. Et que chaque utilisateur puisse à tout moment modifier ou effacer ses données.
Claude Castelluccia, merci d'avoir accepté cet entretien.
Merci à vous.
Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.